EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer dans notre détermination à comprendre ce que veut dire chaque mot lorsque Paul l'utilise dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour décrire l'amour. Paul personnifie l'amour. Il dit que l'amour est ceci, l'amour est cela. Il dit aussi l'amour n'est pas ceci, l'amour n'est pas cela. Entre autres, il dit l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Ça signifie quoi? Est-ce que les intérêts, c'est mauvais? Non, Paul n'est pas en train de dire que les intérêts, c'est mauvais. Il n'est pas en train de dire ça. Il dit simplement que celui qui aime ne devrait pas avoir un regard tourné que sur ses propres avoirs et le but de se plaire lui et lui seul. Je peux étendre cette explication jusqu'à près de 5 à 6 points et arriver à donner 5 autres points pratiques pour vivre au quotidien une vie qui aime les gens sans chercher ses propres intérêts. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Souvenez-vous que Paul est en train d'écrire ici en grec. Il s'adresse aux Corinthiens. Donc, il va pas écrire en araméen, moins encore en hébreu. Mais il écrit en grec. Et il leur explique. À la base, il leur parle des dons spirituels. Il leur dit, écoutez, les dons spirituels, parler en langue, prophétie. Il leur dit, je vais vous montrer une voie plus excellente. C'est-à-dire, pour pouvoir atteindre ce même but d'édifier les gens, sachez-le bien que ça doit se faire avec une motivation fondamentale, qui est l'amour. Alors, il décrit l'amour selon Dieu. L'amour de la nature divine, l'amour que Dieu, avec lequel Dieu aime les hommes, avec lequel nous, chrétiens, sommes capables d'aimer les autres, parce que cela est rempli dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amour agapé, que l'ancienne traduction traduit par charité. Un amour très différent, l'amour de la nature de Dieu. Alors, en le citant, Paul dit des choses que l'amour est, et pour bien définir, il dit aussi des choses que l'amour n'est pas, ou l'amour ne fait pas. Entre autres, il dit que l'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Ça veut dire que celui qui aime son père, sa mère, ses sœurs, ses frères, sa femme, son mari, ses collègues, celui qui exprime l'amour au quotidien, devrait être animé par ce souci de ne pas chercher ses propres intérêts. Être prêt à abandonner ses propres intérêts par amour. Et ça, ça se fait pas seulement parce qu'on aime tellement cette jeune fille, tellement cet homme, parce qu'on veut se marier, on abandonne tout, on le suit. Non, ça c'est une attitude qu'on doit avoir pour toute personne, devant toute personne, pour n'importe quelle forme d'amour, parce que c'est la nature même de l'amour selon Dieu. Mais quel est ce mot qu'il utilise en grec? C'est le mot « zeteita eiotes ». Vous savez bien que je tente de vous lire les mots. Je tente vraiment de lire la translittération. Je ne lis pas en grec. Ce mot veut juste dire « ne poursuis pas ce qui est à soi. Renonce à l'égocentrage. » Le mot, quand il est traduit pour dire « l'amour ne cherche pas ses propres intérêts », il veut littéralement dire « l'amour ne court pas derrière ce qui ne va pas donner plaisir qu'à soi-même. » Ça ne poursuit pas ce qui est à soi-même. L'amour renonce à ce qui est égocentrisme, égocentrage. L'amour ne se dit pas « moi d'abord, moi d'abord ». Ah, c'est fondamental, n'est-ce pas? Parce que s'aimer soi-même à un niveau excessif, ça devient du narcissisme. Aimer les autres doit être basé sur l'amour qu'on se donne à soi-même. Mais dans cet amour sacrificiel, dans cet amour à la manière de Dieu, il y a meilleure conjugaison d'aimer lorsqu'on ne pense plus à soi-même seulement. On met les autres au centre. On ne se met pas au centre. On met le bonheur des autres, leur bien-être, leur sécurité. On met ça au centre. Ça veut dire quoi? Premièrement, ça veut dire que l'amour choisit le « nous » plutôt que le « moi ». Dans un contexte collectif, l'amour ne choisit pas ses intérêts personnels. L'amour choisit les intérêts de tous. Dans un couple, si on s'aime, on ne doit pas gagner individuellement. J'ai gagné, j'ai eu raison. Non, on ne peut plus avoir raison seul. Parce qu'on vit pour le nous. non pas pour le moi. Dans une famille, il en est pareil. Dans une équipe, il en est pareil. Quand quelqu'un réfléchit sur le bonheur des autres, il sait que dans sa conjugaison, dans son expression, il ne pourra plus dire seulement « moi », il devra dire « nous ». Et parce qu'il réfléchit en termes de « nous », il ne considère pas seulement son bien-être, il intègre aussi celui des autres. « Ah, moi, je me suis acheté une voiture, mais pour rouler où ? Et nous alors ? Ah, moi, je me suis fait ceci. » Ça ne signifie pas que tu deviens responsable du bien-être des autres. Ça veut simplement dire que tu dois penser pas seulement à toi-même, mais penser aussi aux autres. 1 Corinthiens 10, verset 24 dit que chacun de vous, au lieu de songer qu'à lui-même et de chercher à jouir tout ce qui est permis pour son avantage personnel, pense aussi au salut et aux intérêts des autres. Il y a plein de choses qui sont permises pour notre bien-être. Mais Paul dit, il faut dépasser ça, penser aussi au salut et aux intérêts des autres. Mon message ne veut pas dire « n'aie pas d'intérêt ». Non, 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 non. Mon message veut dire « dans tes intérêts, associe aussi les intérêts des autres ». On n'annule pas les intérêts de tout le camp. Toi, tu annules les intérêts, moi aussi, j'annule. Non, non, non. Ça veut simplement dire « autant je pense à mon bien-être ». Je me dis « à la fin, comment je vais en bénéficier ?» Je dois aussi me dire « à la fin, comment lui va en bénéficier ?» Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4 dit « ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » J'ai appris quelque chose à travers ces versets dans mon couple avec ma femme. J'avais des projets, j'avais des idées, je pensais. Et j'ai appris avec le temps, chaque fois que je conçois une idée, de me poser la question, quelle est la contrepartie pour ma femme? Si bien que, deux fois, je me suis dit non, puisque j'ai eu cette idée, je l'ai eu peut-être en pensant en moi-même d'abord, mais en fait, je l'ai eu pour son bonheur à elle. Pour son bonheur à elle, pour son bien-être à elle. Deux fois, je me dis, bon, ok, je vais m'acheter quelque chose, je vais faire. Et puis là, je me pose la question, et elle? Et je me rends compte que quand j'essaie de tourner l'intérêt dans sa direction à elle, je me rends compte qu'elle en a peut-être plus besoin que moi je donne l'impression d'en avoir. Ça change beaucoup de choses. J'étais pas comme ça du tout, je vous assure. Je n'étais pas comme ça du tout. Pas parce que j'étais égoïste à la base, mais seulement parce que, voilà, j'ai grandi seul, hein, célibataire, bien sûr, mes frères et sœurs. Mais à un niveau personnel, j'ai toujours été quelqu'un d'ouvert pour partager, mais à un niveau personnel, quand je pense à moi, je suis maintenant marié, oui, mais j'ai besoin d'acheter quelque chose pour moi. C'est moi qui en ai besoin. J'ai pas besoin de penser aux besoins des autres d'abord. C'est moi qui ai faim, c'est moi qui ai soif, c'est moi qui ai envie de m'habiller. Et justement, la Bible dit l'amour, quand il pense au fait que j'ai des besoins que je peux remplir, il doit se dire, et les autres qui me sont proches, qui me sont connectés, les autres qui pouvaient bénéficier de ces mêmes moyens, qui prendra soin d'eux pendant qu'ils sont à côté de moi, pendant qu'ils sont disponibles à moi? Ça n'annule pas mon besoin. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas accomplir mon besoin. Ça veut simplement dire que je ne pense plus en termes de moi, je pense en termes de nous. Retenez cette phrase. Le véritable amour remplace mon profit par notre progrès. Le véritable amour remplace la pensée de mon profit, en quoi ça me profite. Ça remplace là par la réflexion de quel est notre progrès. Comment ceci fait progresser tout le monde vers un objectif. Deuxièmement, l'amour sert sans calculer le retour. Évidemment, lorsque l'amour veut démontrer son côté désintéressé, et bien sûr, il sert sans calculer les retours. Il ne sert pas avec un agenda en disant, bon, j'ai fait ça, ça va leur coûter cher, hein. Moi, je fais ça pour vous, vous devez aussi faire ça pour moi. C'est pas une forme d'échange économique. Lorsque l'amour rend service, il ne s'attend à rien. Luc chapitre 6, verset 32 à 35. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espèrent ce que vous espérez recevoir, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Wow! C'est un grand challenge, c'est un grand défi. Jésus nous montre qu'on doit non pas seulement aimer ceux qui sont aimables, on doit même aimer ceux que l'on considère comme nos ennemis. Et il dit ici, à partir du moment où vous aimez seulement ceux que vous aimez, vous faites rien de différent. Même, il dit, les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu, font pareil. Ils s'aiment entre eux, ils se donnent des choses entre eux, ils prennent soin des uns des autres. Il dit, pour que l'on voie que vous êtes vraiment de la race de ceux qui sont convertis. Aimez même vos ennemis, prêtez sans rien attendre de retour, donnez sans vous dire qu'on va me donner. Mon ami, si tu veux aimer, sache que l'amour donne sans rien attendre. L'amour donne du temps, l'amour donne de l'argent, l'amour donne des moyens. On ne s'attend à rien, on ne fait pas de calculs, on donne un point sur tout. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Acte 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À donner qu'à recevoir. L'amour qui ne cherche pas ses propres intérêts va juste donner, pas recevoir. Retenez cette phrase. Si j'attends un retour, je fais du commerce, pas de l'amour. Faire du commerce n'est pas une mauvaise chose. La Bible nous demande de le faire. La Bible nous demande de faire le commerce, de faire des échanges. Elle nous montre comment le faire de la bonne manière, avec les valeurs de la foi. Mais quand c'est aimer, c'est aimer. Quand c'est commerce. Ne mélangez pas les deux. Quand vous voulez exprimer l'amour à quelqu'un, vous ne pouvez rien attendre en retour. Ce n'est pas une forme d'échange. Ne servez pas quelqu'un pour le culpabiliser, pour lui mettre une dette qu'il devra rembourser. Quand vous aimez, donnez sans rien attendre. C'est pourquoi la Bible dit, donnez à ceux qui ne sont pas en position de vous rendre l'appareil. Donnez à ceux qui se poseraient la question, comment je peux faire la même chose pour toi? Ils se rendent compte que c'est simplement impossible. Si j'attends un retour, je fais du commerce. Ce n'est plus de l'amour. Je vous en supplie et je vous encourage. Donnez sans rien attendre. Quelle est la dernière fois que vous avez donné à quelqu'un que vous savez qu'il n'a pas le moyen de vous rembourser et que vous y attendez même pas? Quelle est la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, non, je ne veux pas être remboursé? Quelle est la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un, je fais ça pour toi, tu n'as pas besoin de venir faire le même temps chez moi, tu n'as pas besoin de conjuguer le même sacrifice, je le fais par amour. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Troisièmement, ça signifie, l'amour écoute avant de demander. L'amour prête oreille avant de réclamer quoi que ce soit. Si l'amour ne cherche pas ses propres intérêts, dans une situation, on ne vient pas d'abord demander recevoir. On vient plutôt se rendre attentif pour donner. Puisqu'on ne cherche pas ses propres intérêts, on ne vient pas poser des demandes. On vient plutôt en recevoir. On vient écouter quelqu'un qui a des choses à nous dire. Jacques chapitre 1, verset 19. Vous savez tout cela, mes chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Chacun soit prêt à écouter, mais qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Frères et sœurs, l'amour véritable tend l'oreille. Je te donne mon oreille pour recevoir ta demande. Je ne te tends pas mes mots juste pour lâcher mes besoins. L'amour qui ne cherche pas ses propres intérêts tend l'oreille pour écouter. Tend l'oreille pour recevoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Proverbe chapitre 18, verset 13. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. J'aime les proverbes. C'est fort les proverbes. Il dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Écoute d'abord. Ne te précipite pas à parler. Si tu ne cherches pas tes propres intérêts, alors écoute l'autre en train d'exprimer ses intérêts. Retenez bien cette parole. Comprendre, c'est déjà commencer à aimer. Quand vous comprenez quelqu'un, vous saisissez ce qu'il veut, vous êtes capable de lui dire ce qu'il pense, de lui rendre ce qu'il vous a dit, c'est déjà un premier pas clair vers l'amour. Quelqu'un se sent aimé lorsqu'il se sent compris. Pour le comprendre, il faut de l'écoute active, il faut l'entendre. Si tu ne cherches pas tes propres intérêts, ça se montre par ta capacité d'entendre, de rester là, d'écouter attentivement l'autre et de penser à lui rendre, de lui montrer qu'on l'a compris. Celui qui se sent compris se sent aimé. Quelqu'un a besoin de se sentir compris dans ton entourage. Tu te dis, mais j'ai tout fait, mais il a toujours l'impression que je l'aime pas. En fait, jusqu'ici, tu ne le comprends pas. Tu ne la comprends pas. Dès qu'elle commence à parler, tu arrêtes pour dire, mais j'ai compris, je sais, c'est toujours le même problème, tu as toujours besoin de ceci et de cela. Tu lui laisses même pas le temps de s'exprimer. Tu as déjà tranché. Comment veux-tu qu'il se sente aimé si tu as tranché avant qu'il n'ait fini de parler? Quatrièmement, n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'amour. Un amour qui ne regarde pas ses propres intérêts. Écoutez, quatrièmement, l'amour renonce à ses droits pour gagner la personne. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aimer, c'est quelquefois renoncer à ses propres droits pour gagner la personne en qui on est en relation. Je parle de ses droits, pas seulement des avantages passagers, de ses véritables droits. Tu en as le droit, tu le devais, on te le doit. Légalement, logiquement, tout est à toi. Mais tu viens et tu renonces. Tu dis, je renonce à ça. Parce que je préfère garder cette personne. Ce frère, cette sœur, ma femme, mon mari, mon pasteur, mon bien-aimé, mon collègue, ma collègue. La personne à qui je veux montrer l'amour, je vais garder cette personne, je veux montrer l'amour à cette personne. J'ai droit de m'asseoir, mais je m'élève parce que je vais garder une bonne relation avec, je vais exprimer à cette personne l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif. Afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique ne soit pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Regardez ça. Quand il était fort, il s'est comporté au faible comme s'il était faible. L'une des expressions fortes d'un amour sincère, c'est la capacité de renoncer à ses propres droits pour le bien-être des autres. Et c'est ce que la Bible parle. La Bible dit ici quand elle dit que l'amour ne regarde pas ses propres intérêts. Romains chapitre 15, versets 1 à 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Waouh! Pour trouver l'édification, on ne doit pas juste penser à soi-même. Il faut renoncer à ses propres droits quelquefois pour gagner la personne, pour maintenir la relation, pour maintenir l'amour. Vous savez, comment on reconnaît qu'une personne a mûri dans son amour? C'est quand on regarde combien de droits il a auxquels il a renoncé. Regardez un couple mûr qui a grandi. Tu te rendras compte qu'ils n'ont fait que ça. Renoncer aux droits. Vous savez, à un moment donné, on se dit, mais moi, j'ai trop renoncé. Moi, je ne le vois jamais renoncer à quoi que ce soit. Mais c'est à tour de rôle. Et ça, c'est dans toutes les relations. Il y a un moment où tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui as renoncé. Mais viendra une autre saison où ce sera que l'autre qui sera en train de renoncer à ce droit pour te maintenir. On ne peut pas vivre tous ses droits et aimer comme il se doit. On a quelquefois besoin de mettre de côté certaines choses pour exprimer mieux l'amour. Écoutez cette phrase. Je peux avoir raison et perdre le cœur. L'amour choisit le cœur. Je peux avoir raison et perdre les cœurs. Tu as raison, en fin de compte, on a vu, oui, tu as raison. Moi, c'était mon droit, je devais l'avoir. Tu as fait et tu es sorti là en disant, j'ai raison. J'avais raison, j'ai défendu mon droit. Mais on peut pas. Mais oui, mais j'avais raison, il fallait que je le dise. Tu as eu raison, c'est bon, c'est fini, ok. Mais tu as perdu son cœur. Qu'est-ce que tu veux rentrer avec à la maison? Le cœur ou la raison? Tu veux garder la relation ou continuer à avoir raison? La maturité de l'amour se manifeste lorsqu'on apprend à arrêter d'avoir raison. À savoir que les choses sont, elles n'ont pas besoin d'être validées. Quelquefois, tu as simplement raison et tu n'as pas besoin qu'on valide. Si les faits sont tels qu'elles sont, tu n'as pas besoin de les faire valoir. Vaut mieux garder le cœur que tenter d'avoir raison. Cinquièmement, la cinquième des choses au sujet de l'amour qui se manifeste sans intérêt, sans chercher ses propres intérêts, c'est ceci. L'amour partage ses ressources. Quand Paul dit, vous devez aimer sans chercher, sans courir derrière votre propre besoin, vous devez être capable de renoncer l'égocentrisme. Il veut dire, l'amour partage ses ressources. Ce qui est à toi doit être à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la forme la plus pure de l'amour. Quand tu aimes, ce qui est à toi n'est pas à toi seul. Ce qui est à toi devrait être aussi aux autres. Ça signifie pas que tu ne peux pas protéger ce qui t'appartient et que tout le monde doit entrer prendre les ressources n'importe comment. Oh non, tu es gardien de ces ressources. Ta responsabilité, c'est les distribuer intelligiblement. Mais tu dois réfléchir en disant que ça ne m'appartient pas qu'à moi. 1 Jean chapitre 3, versets 17 à 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Désolé. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il dit, si un frère, tu as des choses du monde, et j'aime bien les termes, il dit les choses du monde. On parle même pas des choses éternelles, on dit des choses périssables ici. Et tu vois ton frère dans le besoin, pas quelqu'un qui te fait croire qu'il est dans le besoin pour manipuler tes émotions. Tu vois ton frère qui est dans le besoin, et toi, tu as de quoi il a besoin. Et ce n'est pas censé être utilisé à autre chose. Pourquoi tu lui fermerais tes entrailles? Pourquoi tu fermerais ton cœur, tu lui empêcherais de l'avoir? Et j'aime bien, la Bible dit, petits enfants, n'aimez même pas en parole, mais en action et avec vérité. Action et avec vérité. Partager ce que l'on a. Proverbe chapitre 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, car tu as le pouvoir de l'accorder. Wow, c'est fort ça. Quand tu as le pouvoir d'accorder à quelqu'un un bienfait et qu'il en a droit, ne le refuse pas. C'est son droit et le pouvoir est entre tes mains. C'est à toi de valider ce qui est son droit. Ne deviens pas un gardien infidèle des ressources. Comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un pendant que quand tu t'assieds sur la chaise qui garde et qui veille, qui signe, qui lève les options sur des ressources, tu bloques? Comment voudrais-tu que les personnes considèrent que tu les aimes? Je parle pas ici d'être complaisant et de donner à tout le monde n'importe comment, n'importe quand, mais seulement sachez que l'amour partage ses ressources. Écoutez bien cette phrase. La générosité est l'orthographe de l'amour. Ça signifie ceci, la façon d'écrire, de laisser les empreintes de l'amour dans la vie des gens, c'est à travers la générosité. Partager ses ressources est une preuve forte d'amour. Les gens partiront en disant, cet homme m'aime. Pourquoi? Il a pris ce qui était à lui, il a partagé. Sixièmement, l'amour sans intérêt. Ça signifie, l'amour protège le plus faible. Quand on dit l'amour ne cherche pas ses propres intérêts, ça veut dire l'amour ne court pas pour ses propres besoins à lui seulement. L'amour se dit, qui n'a pas la même vitesse si on courait? Qui n'a pas les mêmes moyens si on devait acheter? Qui n'a pas les mêmes opportunités si on devait en avoir? Qui n'a pas les mêmes ressources? L'amour protège les plus faibles. Michée chapitre 6, verset 8, il est écrit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice et aimer la miséricorde. C'est ce que Dieu veut. Vers le faible, il faut aller donner, soutenir, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. Venir au secours de ceux qui sont plus faibles. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Tu es chrétien, tu vas vraiment à l'église, tu es vraiment converti? Voici l'une des preuves fortes qu'il faut manifester. C'est visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Il n'y a pas que la sanctification. La partie se préserver de toute souillure, vivre dans la crainte de Dieu, on aime bien ça. Mais la partie visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Celui qui aime Dieu doit aimer son frère. Et ça, ça se manifeste par la protection que l'on fait des faibles. Est-ce que quand tu es quelque part et tu remarques quelqu'un des faibles, qui n'a pas les mêmes moyens, les mêmes capacités, est-ce que tu sais le protéger? Écoutez cette phrase. L'amour se met du côté de la chaise la plus fragile. L'amour se met du côté de la chaise la plus fragile. La chaise sur laquelle je suis assise depuis toutes ces années, superbe siège qui m'a toujours pris, cette belle chaise grise. Imaginez, ce qu'il n'y a pas, mais imaginez que l'un de coins est assez fragile. Un coin à ma gauche ici, c'est un peu fragile, ou bien c'est un peu troué en bas. Et c'est pas évident. Il faut être intelligent sur la manière de s'asseoir dessus. Il faut gérer son poids, gérer ceci. Mon expression ici veut dire ceci. Si tu aimes l'autre et tu sais qu'il n'est peut-être pas capable de gérer cette fragilité, toi, tu vas te mettre là où tes dextérités, tes capacités peuvent couvrir le danger. Et tu le laisses à lui, l'endroit où, sans les mêmes informations, la même force, il peut s'asseoir et survivre. C'est ce que ça signifie, protéger les faibles. De façon pratique, que devez-vous faire au quotidien? Qu'est-ce que vous et moi pouvons-nous commencer à faire pour vivre un amour qui ne cherche pas ses propres intérêts? Je vous propose 5 choses. Premièrement, donne quelque chose qui t'est utile à quelqu'un qui en a le plus besoin. Prends quelque chose chez toi. C'est utile. C'est pas comme si c'est une décoration, ça sert à quelque chose. Mais donne-les à quelqu'un dont tu te rends compte qu'il en a en fait plus besoin que toi-même. Un véhicule, un habit, un meuble, un numéro de téléphone, quoi que ce soit, mais donne à quelqu'un quelque chose parce que tu t'es rendu compte que son besoin à lui va au-delà du tien. Tu en as besoin, certes, mais il est dans des conditions plus complexes que les tiennes. Deuxièmement, propose ton aide sans attendre retour. Cette semaine et durant tout ce mois, cherche les occasions de donner de l'aide sans être payé, de donner de l'aide sans qu'on te rende l'appareil. Trouve les opportunités de faire des choses pour des gens qui ne pourront jamais te remettre. 3. Prie d'abord pour les besoins des autres. Dans tes temps de prière aujourd'hui et durant toute cette semaine, mon frère, si tu veux apprendre à aimer sans chercher tes intérêts, commence d'abord par les besoins des autres. Après que tu aies rendu grâce à Dieu, loué, glorifié le Seigneur, avant de faire ta longue liste de tes besoins à l'université, de ce que tu veux pour ton mariage, de comment tu veux que le Seigneur exauce dans ton ministère, prends quelqu'un d'autre, qu'il soit ta première conversation avec Dieu. 4. Offre ton temps d'écoute sans agenda. Apprends, si tu veux aimer sans les intérêts, donne du temps à écouter quelqu'un. Sans avoir un agenda caché, sans te dire « je l'écoute pour que je parle ». Non, prends ton temps à écouter. Et faire du bien à quelqu'un parce qu'il a été écouté. Quelle est la dernière fois où tu t'es tu, toi? Tu as écouté. Tu as écouté ta femme. Quelle est la dernière fois où tu as donné, tu as ouvert une conversation pour l'écouter, elle? Pas pour l'écouter pour que tu formates un argument. Non, pour l'écouter, lui donner plaisir, joie d'avoir été entendu et d'avoir compris ses besoins. 5. Donne anonymement. Même petit, anonymement. Pense à donner sans qu'on sache que c'est toi. Ça va libérer ton cœur de la quête des intérêts. Trouve un moyen de faire du bien, de donner de l'argent, de l'aide, une bourse. Fais quelque chose qui bénit la vie de quelqu'un d'autre sans que l'on sache. Trouve un moyen pour qu'on n'ait pas à savoir que c'était toi. Ça va libérer ton cœur de ce besoin permanent de chercher ses propres intérêts. J'ai été pratique. Alors, super. Voyons-nous demain. Que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.